Deutsche Welle, Économie et Développement.
Quels défis attendent le nouveau président sud-africain? Lutte contre la corruption, budget d'austérité, mais aussi salaire minimum. On en parlera en seconde partie de ce numéro avec le chercheur Nicolas Ponce-Vignon, basé à Johannesburg. Eux aimeraient bien ne serait-ce qu'un salaire. Les mineurs de Gerada, dans le nord-est du Maroc, sont en lutte depuis décembre. Deux mineurs clandestins ont été retrouvés morts dans un puits de charbon abandonné, déclenchant la colère des habitants. Si le Maroc se veut exemplaire sur la scène internationale dans sa lutte contre le réchauffement climatique, les mineurs de charbon réclament des mesures contre le chômage et en faveur de l'économie locale. Notre correspondante Stéphanie Wenger a pu se rendre sur place il y a plusieurs semaines.
En 2030, 52% de l'électricité proviendra des énergies renouvelables. Lorsque le Maroc a affiché cet objectif lors de la COP22, beaucoup ont salué l'engagement. Aujourd'hui, le charbon continue pourtant de dominer le mix énergétique dans le royaume à hauteur de 32%. Et ce qui se passe à Gerada contraste avec l'image d'un pays champion des énergies propres. Cette ancienne cité minière est à l'abandon depuis la fermeture des mines il y a près de 20 ans. Les collines alentours sont creusées de milliers de galeries et les arbres qui les couvraient ont été arrachés. Dans cette région, le taux de chômage est de 32%, deux fois plus que dans le reste du pays. Pour s'en sortir, les mineurs continuent de descendre sous terre dans les puits creusés avec les moyens du bord. La galerie descend à pic, parfois à plus de 100 mètres de profondeur. Abderrahmane, 19 ans, est mineur. Penché au-dessus d'un puits, il raconte l'accident qui a coûté la vie à deux frères en décembre dernier.
Voilà le câble qui descend au fond. L'un des deux a tiré dessus pour avertir qu'il y avait un problème. Mais quand le crochet est remonté, lui, il s'était décroché.
Farid a 31 ans. Avant la mine, il a vendu des cigarettes, puis émigré en Espagne quelques temps avant de revenir à Gerada pour travailler dans la montagne, comme on dit ici. En plus du danger, de la pénibilité, les revenus sont très aléatoires.
Ce que je gagne par mois, ça dépend. Il y a des jours où je ramène 5 euros, d'autres où je ramène 10 euros, parfois c'est 8 euros. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est que s'il y avait mieux pour gagner notre vie, on n'hésiterait pas, même pour faire un petit commerce pour améliorer un peu notre situation. Mais l'économie du coin est morte, personne ne peut acheter notre marchandise et on risque de tout perdre.
Les puits des Santa Pic se transforment en boyaux qui courent sous terre à l'horizontale. De simples rondins de bois soutiennent les tunnels. Au 2 décès de décembre, s'est ajoutée une autre mort dans un éboulement en février. Pour Ahmed, 39 ans, fils de mineur et 15 ans de mine clandestine, ces tragédies sont habituelles. Les autorités reconnaissent 18 morts dans ces puits en 20 ans, mais les chiffres avancés par les mineurs sont plus importants.
En tout, il a dû y avoir 47 morts. Il y a eu le gaz. Deux gars qui habitaient ici sont morts. Et puis, il y a ceux qui sont tués par la montagne, écrasés. Les éboulements, c'est aussi une cause d'accident. Et nos parents sont morts. Ils ont sacrifié toute leur vie dans la mine. Et nous, on n'a rien gagné.
Depuis 3 mois, les marches ont lieu presque tous les jours. Parmi les demandes, une véritable alternative économique pour sauver la région. En plus d'efforts consentis sur les impayés d'électricité, les autorités ont proposé un plan d'urgence, des embauches de jeunes pour reboucher les puits inutilisés, des projets d'usines ou des contrats agricoles en Espagne. Pour Aziz Rach, un militant du mouvement, la fermeture des puits est impérative mais pas suffisante. Il faut une vraie reconversion.
Que l'État arrête cette activité. C'est une activité mortelle. Il y a des jeunes là-bas qui sont diplômés. Il y a des licenciés, des jeunes qui ont des diplômes master et qui travaillent à cause de la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse les gens à travailler dans les puits minières.
Les manifestants veulent aussi faire la lumière sur les barons du charbon, ceux qui détiennent les permis d'exploitation. Les galeries sont clandestines, mais le commerce est bien légal. Le prix de vente final du charbon est multiplié par 10 par rapport à ce que reçoit le mineur. Les acheteurs, ce sont des petites usines, des hôtels, des hammams, parfois des particuliers. Suite à la contestation, toutes les licences ont été annulées. 4 ont été attribuées à des mineurs qui se sont constitués en coopérative pour vendre le minerai sans intermédiaire. Nahir Zoukar, un ancien topographe à la mine, a détenu pendant longtemps un permis minier.
On a eu l'idée de demander des permis miniers et de créer des petites mines d'exploitation, mais il faut déclarer les gens à la sécurité sociale, il faut les assurer, il faut, etc. D'ailleurs, je suis le premier qui a eu un permis. Et j'ai recruté des gens qui voulaient travailler, mais ça n'a pas duré.
Et à votre connaissance, les exploitants actuels, ceux qui ont les permis d'exploitation,
oui.
Parmi leur production, combien vient de la production illicite ?
100%. Depuis le début, c'est l'exploitation illicite.
Un projet de musée était à l'étude pour mettre en valeur le patrimoine de la cité minière, mais sur place, à part la silhouette rouillée des chevalements et quelques bâtiments abandonnés, l'histoire de la mine est négligée. Le père de Mohamed El Arjouni est décédé à 54 ans de la silicose, le mal du charbon. Pour ce fils de mineur qui organise un festival littéraire, il y a bien une culture de la mine à exploiter.
C'est notre but, bien sûr. On va essayer de garder cette mémoire des mineurs, parce que c'est important. C'est notre histoire, il ne faut pas raser tout. Donc il faut la garder, il faut parler de tout ça. C'est toute une vie. Et en plus de ça, je pense que c'est notre devoir, nous, fils d'ouvriers, qui avons eu la possibilité d'étudier, d'avoir cette possibilité d'écrire, de porter quand même une touche de témoignage à cette vie d'ouvrier.
Stéphanie Wenger à Gerada pour la Deutsche Welle.
Exit Jacob Zuma, accusé de capture de l'État, c'est désormais le nouveau président, Cyril Ramaphosa, qui dirige en Afrique du Sud. Et les défis sont nombreux, une croissance à seulement 0,9% en 2017, un taux de chômage à 28%, l'arrivée de celui qui s'est fixé comme priorité de relancer l'économie et de lutter contre la corruption a été bien accueillie par les marchés. Écoutez Nicolas Ponce-Vignon, enseignant-chercheur à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, directeur d'un master d'économie du développement.
Cyril Ramaphosa, il a passé depuis plus de 20 ans grâce aux prêts qui lui ont été consentis pour acheter des parts d'entreprises sud-africaines, notamment d'entreprises minières. Mais néanmoins, voilà, d'hommes très riches et donc qui, de ce fait, je pense, inspirent beaucoup de confiance, en tout cas au marché, qui voit l'un des leurs, dans une certaine mesure. Et puis, il y a aussi l'idée, qui est que une des raisons, peut-être, pour lesquelles le président Zuma était vulnérable aux tentatives de corruption, c'est qu'il n'était pas riche lui-même et qu'il avait des tendances notamment à dépenser beaucoup d'argent. Alors qu'au contraire, Ramaphosa, étant un millionnaire, voire milliardaire en rente, est quelqu'un qui est perçu comme ayant moins le besoin d'argent qui pourrait en faire un homme corrompu. Un point supplémentaire, une de ses premières actions a été de mettre en place ce qu'on peut appeler autrement qu'un budget d'austérité, qui serre énormément la ceinture des dépenses du pays et qui remonte les impôts sans remonter l'impôt sur les entreprises.
Pour les Sud-Africains, est-ce que c'est aussi positif, voilà, avec un budget d'austérité, est-ce qu'il va vraiment être en mesure de lutter contre la corruption par rapport à l'ère Zuma ?
Je pense que dans l'ensemble, il y a vraiment l'impression que l'arrivée de Ramaphosa va un peu remettre de l'ordre. Après, est-ce qu'il va pouvoir répondre aux attentes socio-économiques, hein, c'est ça qu'on parle, de la majorité? Je pense que c'est une vraie question. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir une réponse négative. Je pense que ce budget d'austérité, il faut le voir dans un contexte historique. L'Afrique du Sud n'a en fait eu quasiment que des budgets d'austérité, et ce depuis le milieu des années 80 ou la fin des années 80. L'instrument budgétaire, qui est le principal instrument évidemment à la disposition de l'État pour essayer de combler notamment l'énorme inégalité interne qui caractérise le pays. Certaines parties du pays semblent plus riches que certaines parties de l'Allemagne, alors que d'autres sont plus pauvres que le Congo RDC. Cette énorme inégalité interne, elle ne pourra être résorbée qu'en dépensant, qu'en construisant des routes, des infrastructures, etc. Et tout ça avance à un rythme extrêmement lent, en raison justement de cette austérité et de cette volonté de garder des politiques macroéconomiques néolibérales fermes. D'autre part, le budget dont je parlais tout à l'heure, une des mesures symboliques, même si elle peut paraître minime, c'est d'augmenter la TVA. La TVA, donc de 14 à 15 points. La TVA, comme vous le savez, c'est une taxe proportionnelle, donc régressive, c'est-à-dire que proportionnellement, les gens plus pauvres payent une partie plus importante de la TVA à partir de leurs revenus que les gens plus riches. Et ça, c'est une décision quand même très, très symbolique de décider d'augmenter la TVA dans un contexte budgétaire serré plutôt que d'augmenter justement les taxes sur, notamment sur les entreprises, sur la finance, qui est un des secteurs les plus prospérants d'Afrique du Sud.
Vous voyez un signe positif, malgré tout, dans le débat parlementaire sur le salaire minimum national.
En fait, Ramaphosa, en tant que vice-président du président Zuma, a été depuis 2 ans le principal politicien qui a permis la tenue de discussions à NEDLAC. NEDLAC, c'est l'institution tripartite sud-africaine qui rassemble donc des représentants des syndicats, du gouvernement et des entreprises, où il y a eu des discussions assez houleuses d'ailleurs pendant plus d'un an, qui se sont conclues par une proposition qu'a soutenue Ramaphosa d'un salaire minimum qui serait fixé à 3500 rand par mois. Alors, salaire minimum national, c'est la première fois que l'Afrique du Sud aura ça. Et 3500 rand, c'est peu. Hein. Avec des collègues, on a estimé que, étant donné le degré de dépendance, c'est-à-dire le nombre de personnes que des gens qui travaillent à plein temps doivent soutenir, parce qu'il y a beaucoup de chômage en Afrique du Sud, il aurait fallu un salaire environ 1000 rand au-dessus pour leur assurer un salaire, un niveau de revenu pour l'ensemble du foyer au-dessus du niveau de pauvreté. Mais 3500 rand, c'est presque le double de ce que voulaient au départ les entreprises et le National Treasury, qui voulaient à peu près 2000 rand. Donc c'est malgré tout un geste très fort. Alors on va voir ce que ça donne, on va voir quels sont les contours de la loi exactement une fois qu'elle sera votée et débattue. Mais c'est clairement le grand projet de Cyril Ramaphosa, qui est d'une part, je pense, un appel du pied très net vers les centrales syndicales, notamment celles qui se sont éloignées de l'ANC, hein, notamment le syndicat des métallurgistes, le plus grand d'Afrique du Sud, Noussa, qui a participé à la création d'une nouvelle centrale syndicale qui s'appelle SAFTU. Mais c'est aussi une tentative pour donner un peu de pouvoir d'achat et un peu de revenus aux gens dans un contexte économique, vous l'avez dit tout à l'heure, qui reste très morose, la croissance est très faible, à peine 1%, un peu plus, et évidemment qui est à la base d'une grandissante frustration, aussi bien chez les classes moyennes noires que chez les classes populaires.
Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Kostmann au micro. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.